Lucifer. I see you putting up one hell of a fight. This time I won't lie, it's gonna be one hell of a night. Each took one hell of a bite. 9 to 5, hypnotizing rhythm like you're not alive. Synchronize your soul with your heart and mind. I am the truth, man, I'm tired of lying. I'm tired of lying.
www.radio-g.fr.
Ça y est, dans quelques jours, vous allez pouvoir reprendre les plans. Mais attention, hein, pas plus de 10 personnes en même temps. Hein. Bon, on dit ça, mais là, on est plusieurs milliers autour d'une radio. Alors, mettez-vous bien à 1 mètre du poste et détendez-vous. C'est Onyx Live. We could do this all live. Bonsoir et bienvenue dans Onyx Live. On fait l'intérim LGBT dans ce créneau puisque dans ce confinement, nous sommes exceptionnellement présents chaque semaine. Aujourd'hui, nous avons libéré précocement les chroniqueurs de l'émission en leur laissant toute liberté sur leur sujet. Une émission bac à sable donc, sans thème autre que le monde LGBT. Elle aime sa liberté, celle de penser mais aussi d'être. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Lui, il aime être libre de rien faire. Là, il a dû travailler sa chronique, ou pas. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Lui nous a quittés pour de nouvelles aventures dans une nouvelle ville et surtout pour y monter son propre média. Ce soir, il passe quand même nous faire un coucou. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Et enfin, lui, il est libre de critiquer les films, même et surtout ceux qu'il n'a pas vus. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Allez, on en profite pour faire un petit bonsoir à Dylan et Daniel qui ne peuvent pas être avec nous ce soir. Mais alors attendez, on va essayer de les espionner, on va essayer de brancher leur micro. Alors. Ah, oh là, ils sont occupés. Oh là, ils sont très très occupés. Alors,
il faut leur marcher, ouais.
On va pas les embêter. On va commencer. Ah, juste avant de commencer, voilà, parlons actu avec nos coups de cœur et coups de gueule de la semaine.
Je n'ai rien contre les homosexuels, hein, on les aime, mais c'est contre nature. Hein.
Allez, Olivier, un coup de cœur ou coup de gueule ?
Un coup de cœur. Vous vous rappelez tous du film Love, Simon, qui est sorti il y a 2 ans, sur cette histoire d'adolescent, en fait, qui se cherche alors qu'il est au lycée. Ils vont faire une série qui va sortir sur Disney+, mais vu que le programme est pas très familial, il sortira sur une autre plateforme, Hulu. Donc ça s'appellera Love Victor, et donc ça raconte pareil l'histoire d'un jeune homosexuel lycéen, voilà, qui fait son coming out au lycée et qui recherche l'amour de sa vie. Donc ça, c'est une série plutôt. Love Victor. Le film était très bien et je pense que la série sera de même.
Ok, alors on va passer maintenant à Audrey. Un coup de cœur, coup de gueule. Bah, coup de gueule, Audrey, j'imagine.
Bah, comme d'habitude. Non, en fait, mon coup de gueule, c'est par rapport à la Hongrie, Viktor Orban, qui est en train de décortiquer les droits des personnes trans en ce moment là-bas, qui fait ça en douce, qui profite du confinement de l'Europe pour inscrire dans la loi et je crois même dans la Constitution comme quoi un homme c'est avec un pénis, c'est une femme avec une vulve, donc c'est ignorer tout simplement l'existence des personnes trans identitaires dans ce pays et c'est juste ignoble.
Mais bon. Aussi dans certains pays, en fait, la communauté LGBT, elle est prise à partie parce qu'on considère même que c'est elle qui est à l'origine du coronavirus. Ou qui,
oui, alors ça, effectivement, dans les pays arabes, effectivement.
Il y a des pays comme en Turquie aussi, j'ai lu récemment.
Il paraît même que c'est vous deux, le couple zéro.
Oui, c'est ça. Les patients zéro, c'est nous, oui. Est-ce que Nathan, il a un coup de cœur, coup de gueule ?
J'ai un coup de gueule.
Ah.
Un coup de gueule contre la Russie, donc c'est pas si loin que ça avec la Hongrie. Pas tout à fait pour les mêmes raisons. Une youtubeuse là-bas qui est très très connue, elle a 2 millions d'abonnés, elle s'appelle Victoria Peach. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Elle fait des vidéos régulièrement sur les réseaux sociaux et elle a fait une série de films, on va dire, de très courtes minutes, des courts-métrages. Sauf que le problème, c'est qu'elle a fait un court-métrage dernièrement avec un homme, donc un acteur, qui était gay. C'est ça le problème. Parce que comme elle a enfreint les règles sur la propagande gay en Russie, elle a été expulsée de son propre pays. Juste parce qu'elle a mis en ligne une vidéo avec un acteur gay.
Bon, ok, donc un coup de gueule. Et Florian ?
C'est en France, c'est une étude qui vient de sortir sur les violences interfamiliales. Et qui met en lumière les violences faites sur les jeunes filles, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Alors forcément, quand on est homosexuel, c'est encore pire, dans des chiffres assez significatifs de différence entre homo et hétéro. Voilà, donc ça c'est une étude qui a été faite avant le confinement, et donc on verra l'étude après le confinement, mais ça risque d'être absolument catastrophique.
Édifiant.
Alors, violence tout confondu, hein, violence mentale, physique, psychologique.
Voilà. Et si on peut aller plus loin, on peut parler juste des femmes qui sont confinées avec leur bourreau. Quoi.
C'est ça, effectivement, oui. Aussi. Et le coup de cœur, voilà, quand même, allez. C'est un hashtag qui circule en ce moment, là, depuis une dizaine de jours sur Twitter. C'est le Shampoo Bottle Challenge. Je ne sais pas qui a vu. Je ne sais pas si vous avez vu.
Ça raconte quoi ?
T'as essayé ?
Oui, j'ai vu ça sur Twitter.
C'est un concours qui consiste à faire tenir une bouteille de shampoing sur son sexe en érection, c'est mieux, sous le sous-vêtement.
Ce qui est assez drôle, c'est que ça a été détourné, ce Shampoo Bottle Challenge. À la base, c'était uniquement un manga qui montrait justement un homme très vigoureux. Qui ensuite, il y a une personne qui adorait ce manga-là, qui l'a mis sur Twitter, et c'est devenu le shampoo.
Ok, bah écoute, on va tester. Moi j'ai un petit coup de cœur pour un couple de youtubeurs canadiens. Alors ils sont trop mignons, leur accent est si cute. Alors ces frères, hein, ils filment leur quotidien et racontent leurs expériences. Ça s'appelle It's Just Nicolas. Voilà, c'est sur YouTube. C'est mon petit coup de cœur de la semaine.
Oui, ils sont mignons, évidemment.
Ah bah, ils sont mignons, puis surtout l'accent canadien, moi je craque. Ouais. Allez, vous nous écoutez peut-être sur Radio G 101.5 FM à Angers, Jet FM 91.2 à Nantes, ou de quelque part dans le monde sur fréquenzik.com. Alors que vous soyez LGBTQI, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bienvenue, c'est Onyx Live. Allez, quand on parle de plateformes de streaming, on parle beaucoup de séries et de films, mais peu de documentaires. Pourtant, on en trouve de plus en plus, et même des LGBT. C'est ce qu'on va voir avec Olivier.
Oui, alors il y a deux documentaires qui sont sortis très très récemment sur la plateforme Netflix. Alors deux documentaires complètement, qui n'ont rien à voir. Alors tout d'abord, il y a le documentaire A Secret Love, un amour secret. Donc ce documentaire, il retrace l'histoire de Terry Donahue et de sa partenaire, donc c'est une femme, et de sa partenaire Pat Henschel. Donc deux femmes qui sont tombées amoureuses l'une de l'autre en 1947, donc dans le Saskatchewan, donc c'est au Canada. Donc en 47, sur une patinoire. Et en fait, en 47, à l'époque, bien, c'était compliqué de vivre son homosexualité au grand jour. C'était même pas du tout autorisé. Et ces femmes sont toujours ensemble. Donc elles ont ainsi passé près de 60 ans donc ensemble. Et pendant 60 ans, en fait, elles ont caché leur relation à leur famille, leurs collègues et même leurs proches. C'était vraiment une liaison secrète. Alors pour elles et pour leurs amis, pour leur famille, elles étaient soit amies, colocataires, voire cousines. Donc elles avaient vraiment une double vie. Hein. Donc l'histoire de documentaire, il est retracé par le grand-neveu de Terry, donc c'est Chris Bolan, donc c'est un grand-neveu, et il a filmé bien leur vie entre 2013 et 2018. Donc le documentaire capture les dernières années du couple, hein, parce qu'elles ont maintenant elles ont à peu près 80 ans. Et l'histoire aussi permet de bien en fait d'évoquer le sujet de la vieillesse des personnes LGBT. Donc il y en a une des deux qui a Parkinson. Mais aussi ça évoque aussi le problème des vieux, enfin des personnes âgées LGBT, avec le souci à un moment donné en fait elles ont le souci de trouver une maison de retraite qui voudra bien les accueillir. Et donc elles se posent des questions, est-ce qu'on va être bien accueilli, est-ce qu'on va être accepté? Donc on a déjà parlé dans l'émission, mais bon, c'est un vrai problème qui va se poser à terme. Donc c'est aussi une incursion dans le passé du couple qui est fascinante. Donc il y a beaucoup de nombreuses photos, des lettres d'amour qui sont lues par le réalisateur. Voilà, et puis il y a beaucoup de films personnels, donc tournés avec la caméra. Il y a des témoignages émouvants, voilà, de la famille. On voit comment la famille a réagi plus ou moins à leur coming out, qu'elles ont effectué à l'âge de 80 ans.
Ah oui, quand même.
Donc, oui, donc certains
ont été surpris, oui.
certains l'ont pris mal, en leur disant bah, vous nous avez caché ça pendant plus de 30 ans, plus de 40 ans, pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? D'autres ont bien réagi. Et puis l'émotion, le summum, en fait, c'est le mariage. Elles se sont mariées en 2018. Voilà. Et l'officier civil, à un moment donné, va dire nous nous réjouissons que vous n'ayez plus à vous prétendre cousine. Donc, à un moment très, très émouvant, le mariage. Donc, bon. Alors, c'est pas très joyeux, hein, parce que quand même, c'est une merveilleuse ode à l'amour.
C'est pas très joyeuse. Pourquoi
c'est pas très joyeux? Parce que c'est.
C'est joyeux aussi, c'est bien.
Aussi, c'est joyeux, mais bon, elles ont caché un peu leur vie et tout pendant 60 ans. Quoi.
Oui,
c'est
mais là, elles sont heureuses, elles sont ensemble.
Secret, quoi.
Elles sont ensemble, elles sont heureuses et maintenant elles peuvent vivre au grand jour.
Oui.
Soyons positifs, Olivier, voyons.
Oui. Un autre documentaire que je vous propose, ça s'appelle Circus of Books. Alors là, rien à voir. Donc, c'est un documentaire sur une histoire insolite, une histoire de famille et aussi une histoire de la communauté LGBT américaine. Alors, qu'est-ce que c'est le Circus of Book? Eh bien, en fait, c'est un sex shop gay, qui est situé sur le Santa Monica Boulevard à Los Angeles. Et le Circus of Book, donc ce sex shop gay, est ouvert depuis les années 60. Et en fait, depuis 40 ans, il est tenu par un couple hétérosexuel de confession juive, donc Karen et Barry Mason, qui ont actuellement à peu près, qui sont retraités, hein, qui ont à peu près 60-70 ans, qui ont vendu d'ailleurs le sex shop il y a quelques années. Donc le doc est réalisé par la fille de Karen et Betty, donc il y a un point de vue double, hein, un regard de la réalisatrice et aussi une femme qui observe ses parents. Alors, elle raconte que pendant toute leur adolescence, toute leur enfance, toute leur adolescence, leurs enfants, en fait, ignoraient toute leur activité. Mmh. Ils pensaient qu'ils avaient une librairie, mais ils pensaient pas que c'était une librairie LGBT. Donc, le documentaire, il aborde l'histoire de la communauté LGBT. Donc, il y a beaucoup de témoignages sur la répression policière dans les années 60. Le sex shop est aussi décrit comme un refuge pour les homos à l'époque, dans les années 60-70. Il y a aussi beaucoup de témoignages sur les ravages de l'épidémie de VIH. Alors, en fait, il y a des témoignages très émouvants. À un moment donné, ils racontent que quasiment tous leurs salariés sont décédés du sida. Et même à un moment donné, c'est très émouvant parce qu'en fait, les gérants, là, donc Karen et comment s'appelle Betty, en fait, ils appelaient les parents de leurs salariés pour leur dire que leur enfant était malade. La plupart du temps, même dans 100% des cas, les parents disaient je ne veux plus jamais le voir. En fait, je me fous complètement qu'il décède, quoi.
Ouais,
donc, très, très émouvant. Et on a aussi beaucoup de témoignages de figures de la pornographie américaine, notamment Larry Flint, qui est le patron de Hustler, un magazine plutôt hétéro américain. Et puis aussi le témoignage de Jeff Stryker. Alors, Jeff Stryker, les moins de 40 ans ignorent qui est Jeff Stryker.
Ouais, Nathan, tu connais pas Jeff Stryker?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Par contre, Florian connaît.
C'est un acteur.
Ouais. Oui, alors c'est un acteur qui a fait beaucoup de porno gay. Voilà, il était connu pour un sexe assez conséquent, on va dire. Et c'était la figure du porno gay dans les années 80. Et donc, ce qui est marrant aussi, c'est que donc, le fils de Karen et Barry est lui-même homosexuel. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont au début pas trop accepté l'homosexualité de leur fils.
Ah bon?
Ils ont été un peu surpris et tout. Et finalement, ils ont rejoint une association de parents d'enfants LGBT et ils défilent régulièrement aux marches des fiertés organisées à Los Angeles. Donc voilà, c'est tout mignon, là, ce couple d'hétéros qui tient un sex shop gay. Je trouve ça assez original.
Donc ça, c'est une série qu'on peut retrouver où?
Alors ça, c'est un documentaire.
Les deux sont
des documentaires et les deux sont sur Netflix. Il s'est sorti il y a quelques jours seulement.
Pourquoi, alors qu'il fait si beau et qu'il fait chaud, je reste là, moi je veux partager du bonheur, sentir la présence de mes amis pour qu'on se mette minable, qu'on se mette minable. Je rêve d'un barbecue time. Fini les distances, rendez-vous sur Skype. Vers 19h, en apéro, je prendrai un whisky. Mais si tu bois pas, c'est pas si grave. Prends un jus de Goya de chez Pago. Go, go, c'est du bon jus de fruits.
J'ai fait chauffer ma poêlière à 200 degrés, c'est bon, je peux mettre les chipolatas. Pas de braiserie de charbon de bois. Allez, joins-toi à mon super visio barbecue pour qu'on se mette mina. Je ramène mes chips au gouda, elles sont dans un bol pour qu'on se mette mina. Ça fait vraiment un bail les gars, ce soir on se la colle. Allez, on fait la fiesta avec du Patrick Topalov. Bon, c'est un peu cheap et ça crampe tout le temps dans la conversation. Et quand on se met à rire, on comprend plus trop, mais ça fait plaisir. Et qu'est-ce qu'on est beau! Ah, mon cœur fait boum et de joie. Oh, 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 on explose! Je fais chauffer ma poêlière à 200 degrés, c'est bon, je peux mettre les chipolas. Pas de brasier de charbon de bois, allez, joins-toi à mon super visio barbecue. Entre amis, entre amis, entre amis.
Hey, hey, hey.
Entre amis, entre amis.
Ouh, ouh, ouh.
À l'ancienne. Entre amis, entre amis.
Barbecue time, Q-time.
Entre amis, entre amis. Super visio barbecue, pour qu'on se mette mina.
Trop content de mon barbecue time, j'ai vidé mon bord.
Pour qu'on se mette mina.
Quelle idée ce barbecue time, vraiment j'en raffole.
On se mette mina.
La vodka,
on se mette mina.
Ça fera ça
avec du David Asselineau.
La 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 la.
Partons maintenant dans les années 60 avec une artiste qui a tapé dans l'œil d'Audrey. Et pour cause. Voici la chronique d'Audrey.
Oui, j'aimerais vous parler aujourd'hui de Jackie Chan, qui est une artiste trans des années 60. Elle aurait pu devenir une grande figure de la soul et du rhythm and blues. Je vais juste lire l'article qui est tiré d'un blog qui s'appelle Transgrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr les paroles de Jackie, qui dit « Voilà ce contre quoi on lutte en tant que personne transgenre ou gay ou ce que tu veux. C'est eux qui veulent suivre un chef, c'est eux qui ne pensent pas par elles-mêmes. Ce pays a parmi la pratique la plus atroce et la plus meurtrière qui ait jamais existé dans ce monde, réduire les gens en esclavage. Tu vois, je n'invente rien de nouveau quand je m'exprime comme cela parce que je sais jusqu'où elles ont pu aller. Comme je le dis toujours, une petite fille africaine a appris à grandir pour devenir une vraie reine à cette époque maudite dans le sud des États-Unis et sous les lois de Jim Crow, c'est-à-dire les lois qui organisaient la ségrégation raciale jusqu'en 1964 dans le sud de ce pays. Mm-hmm. Elle continue, je me suis élevée au-dessus de tout ça à force de détermination. Je ne voulais pas me contenter d'un siège arrière. Si je ne peux pas m'asseoir à leur table avec une table map brodée, je ne vais pas par-dessus le marché, aller jusqu'au jardin et manger de la terre. Je vais m'occuper de mon propre repas et manger à ma propre table et j'irai certainement pas te voir pour te laisser me dénigrer. C'est comme ça et je serai toujours ainsi avec fierté. En fait, elle est née en 1940 à Nashville. donc ville du sud, donc un quart de siècle un peu avant le Civil Rights Act. Et elle a commencé à se sentir femme à l'âge de 13 ans, sans que sa mère la réprimande ni quoi que ce soit, ou lui demande de changer. Et elle n'a jamais cessé d'affirmer et d'être fière d'être une femme. Elle a chanté à l'âge de 15 ans dans les chorales gospel de la ville. Et très peu de temps, elle a assisté pour la première fois à un concert de Little Richards, qui n'était pas n'importe qui, un immense chanteur, dans les années 50. Et elle a été autorisée à participer à une répétition de son groupe, The Upperts, qui était de passage dans le Tennessee. Et elle a fait jouer de la batterie. Et là, on a salué son talent sur les rythmiques de Little Richard et pour ses aptitudes musicales ainsi. Et par la suite, on lui a offert la possibilité d'enregistrer ses tout premiers titres. Elle a même gagné un grand concours de vocal en interprétant Lucille, de Little Richard, qui à ce moment-là a plongé ses auditeuristes dans un second état. Mm-hmm. Après, elle s'est mise avec un trompettiste qui s'appelle Frank Motley. Ils ont commencé à faire avec l'orchestre des tournées, surtout sur Toronto et Montréal. Et son premier single sort en 63 qui s'appelle Any Is Another Way et qui fut une véritable révélation, à tel point que ce lavant de son caractère en tour, ne cesse que sur la ville de Toronto, a dépassé les 10 000 exemplaires, ce qui pour l'époque est énorme.
Est-ce qu'elle était considérée comme une femme par rapport à gens qui l'aimaient, qui l'écoutaient, ou est-ce qu'il y avait toujours ce petit côté qui à l'époque était encore plus sulfureux, c'était une transe?
Elle subissait de plein fouet à l'époque où le fait de n'être que d'être gay était répréhensible, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Donc ça, elle subissait de plein fouet, bien évidemment, et elle s'en fichait. Elle allait même se représenter, enfin se scéner sur des scènes de personnes blanches que dites straight.
D'accord. Donc elle en jouait aussi, en fait.
Ah, pour elle, c'était une femme et elle se présentait en tant que femme.
D'accord, mais pas en tant que trans. C'est-à-dire qu'elle, est-ce qu'elle
jouait... Non, mais il faut bien savoir, c'est qu'à l'époque, la détermination de trans n'existait pas. Bien souvent, les femmes trans étaient soit qualifiées de drag queen ou soit de gay. Mm-hmm.
D'accord.
Donc voilà quoi. D'ailleurs, j'ai un bouquin là qui s'appelle Stone Vase Blues, qui parle très bien de cette époque-là. Et puis elle est décédée assez récemment, il y a un petit peu plus d'un an, le 19 février 2019, dans son sommeil. Voilà quoi. Elle a jamais pu faire un dernier concert, bien que ça lui était réclamé, et elle a été quand même nominée au Grammy dans la catégorie des meilleurs enregistrements historiques.
Très bien. Bah écoute, merci Audrey. On va justement écouter Monk Money par Jackie Chain, Not on X-Line.
The best things in life are free. You can give them to the birds and bees. I need some money. Hey, yeah, I got some money. That's what I want, that's what I want. Your love gives me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money. I sell whole lots of money. That's what I want, that's what I want. Hey, yeah. Money can't get everything, it's true. But it can't get it, I can use. I need some money. Can't you see I need a whole lot of money? That's what I want, that's what I want. Hey, yeah. That's what I want, that's what I want, yeah. Your love gives me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money, a lot of money. That's what I want, that's what I want, yeah. Money can't get everything, it's true. What it can't get, I can use. I need money, a lot of money. That's what I want, that's what I want, yeah, yeah. I need money, I said a whole lot of money. You wanna make me stay all night,
Donc c'était Jackie Chain avec Monet dans Tonix Live, une sélection musicale d'Audrey. Allez, vous êtes toujours sur Radio G, 101.5 FM à Angers, ZFM 91.2 à Nantes ou quelque part dans le monde sur fréquencezik.com. Et en ces temps d'armistice, on pense à nos militaires. Il n'en fallait pas plus pour nous émoustiller. On se met au garde à vous devant notre capitaine Florian.
Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha.
Eh bien oui, effectivement, armistice, dit militaire. J'avais envie de vous parler de deux réalités des militaires et militaires gays. Enfin voilà, je fais le lien entre les deux. Une réalité actuelle et une réalité historique. L'actuelle, c'est l'homophobie qui règne encore au sein des armées françaises. Hein. Je me place que en France. Mais ailleurs dans le monde, c'est un peu la même chose. Il y a quelques pays qui sont en avance, mais ça reste.
Il y a certains pays comme la Suisse où c'est interdit. Hein.
Bah alors soit effectivement c'est interdit quand t'es LGBT de rentrer dans les armées, soit effectivement il y a des choses qui sont mises en place et ça avance, mais ça avance en général à petits pas. Non, mais je reste en France et je pars du rapport de SOS Homophobie de 2018. Hein, donc c'est assez récent où ce rapport met en lumière l'homophobie dans le milieu militaire. Avec à l'appui des témoignages de militaires et de personnes associatives aussi qui témoignent des éléments qui leur sont été remontés par des personnes. Donc, comment se traduit un petit peu l'homophobie dans le milieu militaire ? C'est souvent par des remarques déplacées, par des brimades et insultes, effectivement des situations parfois dramatiques, c'est ce que j'ai appelé les 4D, découragement, dépression, le départ de l'armée et parfois mène aussi au décès par suicide.
Donc même actuel, je pensais que ça allait beaucoup mieux moi au niveau des militaires français, parce qu'on a, tu parles de la France, il y a toujours ça encore.
Ça date d'il y a 2 ans.
On peut imaginer que c'est encore difficile, ouais.
Ouais, mais c'est surtout difficile d'en parler en fait. Donc, je pense qu'il voilà, il y a des gens qui ne disent rien.
Il y a aussi les femmes, hein, les lesbiennes qui sont militaires.
Hein. Ah oui. L'homophobie c'est pour tout le monde et puis les personnes trans aussi. Donc voilà, il y a des choses qui sont mises en place au sein même de l'armée par les armées. Et puis il y a une association aussi qui s'est créée, qui vient en aide justement aux militaires. Ça s'appelle l'Association de défense des droits des militaires. Voilà, qui recueille effectivement aussi les témoignages. Alors c'est deux approches différentes en fait, donc c'est plutôt intéressant en termes de complémentarité, c'est-à-dire que TEMIS reste dans l'institution, c'est-à-dire qu'il faut enfin c'est quelque chose qui est très, comment dire ça, qui est très intégré dans l'armée. Donc ça veut dire que quand tu veux témoigner, tu passes par ta voie hiérarchique, enfin voilà, tu restes dans un cadre assez serré, enfin strict, ce qui pousse pas forcément à témoigner, hein, parce que quand tu sais qu'il faut en référer au supérieur et qu'il va rien faire, enfin voilà, c'est assez difficile. D'où l'utilité de l'association, quand même, qui finalement permet de d'ouvrir un petit peu plus la parole, justement, puisque il n'y a pas ces histoires un peu hiérarchiques. En tout cas, elle est moins présente.
Et cette association, elle a un petit peu de pouvoir quand même. Il pourrait y avoir des sanctions ou c'est juste pour aider psychologiquement.
Alors là, c'est là où effectivement c'est plutôt compliqué. Alors, certes, il y a un soutien psychologique. Il y a quelques actions de sensibilisation auprès du ministère, des militaires et des unités, mais ça reste assez limité quand même, hein. C'est vraiment quelque chose en soutien.
C'est pas quelque chose qui est né de l'armée, c'est des associations en parallèle par des militaires, pour des militaires, mais c'est en parallèle, c'est pas une volonté de l'armée de donner ce genre de choses.
Cette association-là, oui. La cellule TEMIS, par contre, c'est vraiment un truc créé par le ministère.
D'accord, donc là, du coup, il pourrait y avoir des sanctions en passant par cette cellule-là.
Oui.
Ouais.
J'ai rien. Honnêtement, je pense qu'on aura du mal à avoir des chiffres.
Avoir des infos avec la grande muette, hein, c'est sûr. D'accord. Et dans le passé, alors, ça se passait comment ?
Et dans le passé, une réalité aussi du passé, donc c'est Nicole Canet qui a mené une enquête, qui a fouillé dans les archives de la préfecture de police de Paris et qui a fait un petit peu l'histoire de la prostitution masculine à Paris entre 1860 et 1960, donc sur un siècle. Et elle a trouvé que finalement la prostitution masculine était très très elle était effectuée en fait par des militaires, souvent. Ou en tout cas, les militaires consommaient aussi des relations sexuelles avec des hommes. Puisque oui. Certains militaires homosexuels, en fait, revenaient sur la capitale,
oui.
soit pour profiter de garçons qui étaient mis à leur disposition, soit pour eux-mêmes, en fait, tarifer leur relation sexuelle.
Voilà. Ah oui, pour arrondir les fins de mois, quoi.
Tout à fait. Et donc, elle dit que les soldats gagnaient en une heure ce que l'État leur accordait en un mois. Donc, il y a ça. Alors, pourquoi justement les militaires se prostituaient ? Parce que l'hygiène des militaires, en fait, était particulièrement prisée. Puisqu'il y a la vigueur appréciée, voilà, histoire de...
Bien sûr, ils étaient musclés.
Voilà, ils étaient musclés, voilà. Ce qui est encore le fantasme aujourd'hui. Hein,
bien sûr.
Un peu dans la communauté, voilà.
En plus, ils font exprès, hein, leurs tenues sont toujours bien moulantes, en plus. Hein.
Alors ça, je pense que c'est fait exprès, absolument.
Ah oui.
Pour faire fondre tout le monde. Et donc la vigueur et les risques sanitaires qui étaient limités aussi, puisque les militaires passaient des visites médicales régulières. Mmh. Et donc, ça limitait le risque, effectivement, d'attraper une IST. Une IST, puis à l'époque, il y avait encore la syphilis, mmh, bien plus que maintenant, qui couvrait. Et il y avait certains lieux, en fait, qui étaient très fréquentés. Par exemple, l'hôtel de l'Alma. Dans le quartier de l'Alma, il y avait plein de casernes autour, donc voilà, c'était plutôt simple. L'hôtel de Madrid et puis l'hôtel Marigny qui a été créé par un ami de Marcel Proust, où il y avait aussi des militaires qui se prostituaient, venaient, repartaient.
C'était dans quelles années ça ?
Alors, l'Alma c'était en 1964, 1913, 15-17, donc avant les années 20, entre la fin du 19e siècle et les années 20.
D'accord.
Et puis après, ça s'est plus ou moins perdu, je pense, derrière.
J'aimerais rebondir sur les TDS, travailleurs et travailleuses du sexe, pour les quelques copines qui vivent de cette activité-là, qui sont contraintes de vivre dans une précarité encore plus qu'elles ne pouvaient le subir auparavant. Et puis aussi de se méfier des nouvelles plateformes virtuelles qui sont en train de se créer actuellement et qui sont de fastes arnaques où elles pourront jamais récupérer leur argent et en plus non plus être propriétaires de leurs images. Voilà.
D'accord. Tu veux parler des chats masturbe chat ou des choses comme ça où normalement on se fait rémunérer si on se montre un petit peu.
Il y a différentes plateformes comme OnlyFans qui est très connue, qui fonctionne très très bien. Pour ce qui est des lives, il y a Cam4 qui fonctionne très bien et qui est sûr. Après là, depuis le début du confinement, il y a des sites qui se créent de plus en plus et qui ne résistent pas, qui sont là juste de manière fictive, pour profiter justement de ces personnes, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des personnes queer, des personnes transféminines ou transmasculines, et qui vivent de cette activité-là, et qui s'orientent aussi vers cette activité-là parce qu'elles ne peuvent plus avoir de relations physiques et qui se font malheureusement arnaquer.
Donc ça veut dire qu'en fait, ils pourraient même peut-être prendre les vidéos qui sont faites en privé et puis après pouvoir les revendre et les rediffuser sur Internet sans leur consentement.
Exactement.
Ok, donc surtout être vraiment très très prudent. Bon, bah écoute, c'était une bonne précision à donner, merci. Dans un instant, on va retrouver un revenant, comme quoi le confinement peut aussi rapprocher. Mais juste avant, un peu de musique, avec un des coups de cœur d'Olivier cette année. Voici Kinky Boots dans Onyx Live.
Can't fake it. Jack it up, cause I'm no flat tire. Back it up, 6 inches higher. The sex is in the heel, so just embrace it. From learning to
feels to scientific view, but you know what I say, the sex is in the heel of kisses, you can make it. The sex is the appeal, kinky boys can't shake it. Feel the toss in patience. It's contagious. The sex is in the heel, so just embrace it.
Ideas here.
They're all stiletto heels. It's physically impossible to make a stiletto that can bear the weight of a full-grown man.
Not so fast. If we could mold the steel, one piece from ball to heel, we'd underpin it and remake it so not even Don could break it.
Sorry? I said
we'd underpin it and remake it so not even Don could break it.
You think
we can do it?
We can do it!
We can do it!
C'était un extrait de la comédie musicale Kinky Boots dans Tonix Live. Allez, depuis Lyon, on retrouve maintenant celui qui vient de relancer sa chaîne d'information. On en parlera avec lui. Mais là, c'est l'heure de sa chronique. Voici le retour de Nathan.
Bah alors justement, on a eu un pont il y a deux petites secondes sur ce que je voulais parler à l'instant. Je voulais parler d'OnlyFans. OnlyFans, donc c'est un site hein, qui est soit privé, soit public, généralement contre un abonnement mensuel ou annuel, pour accéder à des photos ou tout type de contenu, même vidéo, souvent à caractère sexuel. OnlyFans permet donc, c'est un réseau social, permet donc de voir ces contenus par un peu tout le monde. Hein. Aujourd'hui, on a même des acteurs, on a des personnes qui sont pas du tout du milieu pornographique qui le font, qui créent leur OnlyFans.
J'en ai un, et moi, je suis pas dans le milieu pornographique et j'en ai un quand même. Hein.
Comment ?
J'ai un compte, moi, et je suis pas dans le milieu pornographique.
Non, c'est ce que je disais. On n'est pas forcément obligé de faire partie du milieu pornographique pour avoir un compte OnlyFans, justement.
Voilà, c'est ça.
Aujourd'hui, on a une histoire qui a été relatée qui est plutôt sympathique. Il y a un jeune homme, comme beaucoup de gens, qui ont créé un compte OnlyFans et puis qui faisait ses contenus assez calientés sur les réseaux. Et il les relayait sur Twitter, notamment. Et puis, à un moment donné, il y a sa mère qui est tombée sur ses contenus OnlyFans. Aïe. Donc, imaginez la réaction qu'elle a dû avoir lorsqu'elle est tombée sur les contenus OnlyFans. Comment vous auriez réagi, vous ?
Bah, moi, ça me regarde pas, donc j'aurais été plus mal à l'aise d'avoir violé un petit peu son intimité que de savoir ce qu'il faisait là. Après, je suis pas sûr que j'en aurais parlé, en fait. Hein.
Moi, j'ai le même sentiment que Bruno, et j'aurais laissé tranquille et j'aurais même pas regardé.
Florian ?
J'aurais dit quoi ? comme ton père.
C'est ça, tu fais comme ton père, je suis fier de toi, c'est ça?
Non, en fait, elle a eu une réaction plutôt originale. Elle a voulu faire un petit peu semblant de l'engueuler. Elle lui a dit « Est-ce que tu postes sérieusement des nudes pour de l'argent ?» Donc, pour avoir la réaction de son fils, savoir comment il jaugeait ce service-là qui était OnlyFans. Et finalement, elle lui a dit que c'était une ruse et qu'elle le soutenait dans cette démarche-là et qu'il pouvait bosser dur pour cet argent s'il ne se mettait pas en danger, s'il restait dans des normes, on va dire, d'exhibition correcte et surtout qu'il ne mettait personne d'autre que lui sur son compte OnlyFans. Elle a même prévu pour Noël prochain de mettre à jour sa liste de cadeaux ainsi que pour son anniversaire pour pouvoir agrémenter le compte OnlyFans de son fils avec des objets et autres
ouais, alors, offrandes. Très libérée, mais je trouve elle est très libérée, mais je trouve ça un peu malsain quand même comme réaction.
Alors, selon elle, c'est pour être positive et éducative.
Ouais.
Elle ne veut pas l'interdire de faire ce qu'il veut, parce qu'il est majeur.
Alors, par contre, oui, ça, je suis d'accord, mais de là à l'encourager...
Le fait d'encourager, c'est intéressant, il se rendra compte par lui-même si ça lui va ou pas, et combien de temps.
Ouais, enfin, c'est sa mère qui l'encourage.
Je ne pense pas qu'il faille dire que c'est pas bien et que...
Non, alors ça, je suis d'accord, mais là, c'est quand même sa mère qui l'encourage et qui demande même qu'on achète des godes pour qu'il puisse mieux se montrer, quand même. En clair, c'est ça. Hein.
Ça permet de rendre le sexe moins tabou aussi et d'arrêter de le considérer effectivement comme un truc caché ou déshonorant. Enfin, je trouve que la réaction, après voilà.
Même avec une mère à son fils. Bon, ok. Olivier.
Moi, je me rappelle avoir vu un reportage sur Rocco Siffredi où il témoignait avec son père et son père était très très fier que son fils fasse du porno et tout. Et il l'encourageait et tout. Pour lui, c'était une réussite professionnelle, quoi. Mais après, chaque parent voit comme il veut son fils ou sa fille. Quoi.
Ouais. Audrey,
je pense comme Olivier. Moi, personnellement, je suis pour que la personne assume ses choix et même si elle se trompe, elle fait ses erreurs, on a tous droit à l'erreur. Et puis, le sexe, il n'y a rien de tabou dans le sexe. Quoi. Voilà, quoi.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
On a le droit d'avoir du plaisir et de donner du plaisir.
Ah non, mais je suis d'accord. Moi, je disais juste que c'était sa mère qui l'a vu, donc qui a été voir la chose. Et en plus, qu'il l'encourage à faire ça. C'était ça, moi, qui me choquait un petit peu. C'est la vie de son fils. Elle peut dire, tu fais ce que tu veux. Mais de là à l'encourager, je trouve ça un petit peu déplacé.
Moi, je trouve que naturellement, du coup, elle repose un cadre parent-enfant, c'est-à-dire que d'habitude, on est toujours sur des relations ou très régulièrement assez tabou entre les parents et les enfants. Là, pour le coup, elle a réussi subtilement à lui donner son approbation, même s'il est majeur, et en même temps garder pas un œil sur le contenu, parce que c'est pas du tout ce qu'elle dit ensuite, mais à lui rappeler les règles de bonne conscience et de bonne utilisation du site, donc à faire son rôle de parent. Je trouve qu'au contraire, elle l'accompagne de la meilleure des façons. Après, de là, lui offrir des jeux et des jouets, c'est uniquement pour lui dire qu'en gros, bah, il est adulte, il n'a plus besoin d'avoir des consoles de jeux vidéo ou autre, et qu'aujourd'hui, s'il vit de cette activité-là, autant qu'elle le soutienne et qu'elle mette à profit les cadeaux dans ce sens-là.
Ouais, alors là, je ne te suis pas du tout, mais bon, chacun son avis effectivement sur ça. En tout cas, qu'elle le conseille... Je suis d'accord, mais la fin me paraît un petit peu déplacée. Mais voilà.
Parce que pour ça, j'avais terminé. Mais notre actualité, là, ça va être très très bref. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de New York, depuis 1969, on avait eu les émeutes de Stonewall. Donc New York confirme l'annulation de la marche de fierté. Donc l'État de New York en est assez dévasté. Ils auraient aimé pouvoir le garder. Par contre, on a Donald Trump qui a fait un tweet comme quoi il trouvait cela normal d'annuler ça, et que si ça pouvait le rester dans d'autres termes, il n'a pas dit ça comme ça, mais si on pouvait annuler les prochaines marches de fierté, ça ne le dérangerait pas.
Oui, bon, en même temps, c'est pas très étonnant.
J'ai trouvé ça un peu dommage.
Bon, en tout cas, si, alors pour info, hein, il y aura celle de Danger est annulée.
Nantes, elle est annulée.
Oui.
Ancenis reportée.
Ah, Ancenis est reportée, d'accord.
Ouais, au 5 septembre prochain.
À Angers, moi, je vais apporter ma pierre à l'édifice de mon côté, même si on n'est pas du tout du côté d'Angers, mais du côté de Lyon. La Pride de Lyon, pardon, a été gelée et ils sont en pleine réflexion de savoir si elle va pas justement se dérouler en plein mois de septembre.
Aussi, d'accord.
Je dirais que ça,
Il y a une réflexion de façon générale pour que les assos fassent ça, fassent des prides d'automne, donc plutôt au dernier semestre, au dernier trimestre.
Un peu ce qui va se passer à Angers.
Donc ça sera entre septembre, octobre, novembre. Quoi.
D'accord, donc peut-être qu'à Angers, il y aura peut-être quelque chose.
À Angers, on réfléchit pour peut-être faire un événement à l'automne, mais bon, bien sûr, on fait tout en sorte que la sécurité de chacun soit assurée. Donc s'il faut annuler, on annulera, bien sûr.
Bah une manifestation à chacun un mètre de distance, ça va faire 15 kilomètres, hein, s'il y a toujours tant de personnes. Ça va faire beaucoup quand même.
Nathan. La Roche-sur-Yon, c'est aussi annulé. Hein.
Tout, j'imagine. Hein.
Bah oui.
Ouais. Nathan, je reviens vers toi. Alors, donc, tu es maintenant à Lyon et tu vas relancer, en fait, on en avait déjà entendu parler de ton média qui s'appelle le Médiateur TV. Donc, tu sais quoi exactement?
Alors c'est le Médiateur tout court. Le Médiateur TV, c'est le nom pour pouvoir le retrouver plus simplement. En fait, c'est un site d'actualité web où on retrouve toutes les catégories sociétales, économie, des articles historiques et patrimoine. Ce qui fait aussi mon métier, c'est-à-dire l'automobile, tout ce qui est autour de la mobilité. Et on a un regard un petit peu différent, on va dire de synthèse sur l'actualité. C'est pas forcément du hard news et ça se retrouve sur lemediateur.tv directement, un site internet et ses réseaux sociaux.
D'accord, donc tu as plein de journalistes ou d'apprentis journalistes qui sont avec toi, tu as toute une équipe apparemment.
On est 15, ouais, effectivement.
Ah ouais, c'est quand même déjà pas mal. Et tu fais pas mal de...
dont 6 personnes en école de journalisme, que ce soit à Lille, à Amiens ou même à Lyon et à Toulouse.
D'accord, cool. Et donc ça, donc y a pas, c'est pas un journal papier, c'est uniquement un journal vidéo, c'est ça? Et
écrit en web. Pour le moment, c'est pas vidéo, c'est web.
C'est web, d'accord. Mais il y a des lives qui sont faits quelquefois.
Il y a quelques lives de temps en temps, effectivement.
Allez, on fait une petite pause et on se retrouve juste après pour les meilleurs tweets du confinement de la semaine. Voici Duncan Lawrence avec Love. C'est mon anglais, je l'ai travaillé pendant
Duncan.
Duncan. Love Don't Hate It, Nantonix Live. I wasn't ready for this. I wasn't ready for my heart to drop the way that it did. I can't deny, I can't deny, I feel it in every kiss. It's slowly taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I, so have I. Look at us, we could have it all. So damn right that it should be wrong. Let's not complicate it. If it's love, don't. Look at us, we could have it all. Alors c'était Duncan Lawrence, je sais pas, avec Love Don't Hate It d'Antonix Live. Alors il nous reste quelques minutes pour nous retrouver sur Twitter. Alors on va commencer par Audrey.
Message Kim Jong-un qui n'était pas apparu en public depuis 20 jours. Je n'avais plus d'encre pour imprimer mes attestations. Désolé.
D'accord, ok. Nathan, est-ce que t'en as un ?
J'ai pas mal réfléchi à la situation dans le Grand Est. Je pense que la gravité de l'épidémie là-bas est due au fait que c'est la région française la plus proche de la Chine.
Évidemment, évidemment. Florian ?
Je m'avance peut-être, mais je pense qu'on se souviendra tous où on était pendant le confinement.
Oui, ça c'est sûr, vu qu'on est tous chez soi. Moi, je vais...
Qu'est-ce que tu as fait entre le 16 mars et le 19 mai?
Ben oui, c'est ça, ouais, on s'en rappelle. Moi, je vais faire le ramadan à mes Sims. Ils n'arrêtent pas de s'évanouir, ça m'énerve. Pourquoi pas, aussi. Olivier?
Quelqu'un aurait-il un tuto masque pour ceux qui ne savent pas coudre et qui n'ont pas de fil, ni élastique, ni bandana? Je sais pas, moi, un truc à base de feuilles de lasagne ou de canettes de bière, par exemple.
C'est vrai qu'à chaque fois, oui, il y a plein de tutos, mais il faut avoir le matériel aussi. On ne sait pas tous coudre. Hein. On repart avec Audrey.
À ce rythme, on va trouver Dupont de Ligonnès plus vite qu'un kilo de farine ou de pâte.
Effectivement. Nathan.
Alors, le voisin qui apprend la flûte à bec depuis 2 mois n'a absolument pas progressé.
Oh, le pauvre. Effectivement, ça doit être compliqué. Florian.
Il y a beaucoup de monde dehors. Qui s'étonne qu'il y a beaucoup de monde dehors, je trouve.
Oh, ah oui. Effectivement. C'est pas con.
Ça résume bien la situation actuelle.
Ouais, ça résume, ouais. Olivier.
J'ai commencé à ce confinement en me disant que j'avais 5 kilos à perdre. Ah, tiens bon, hein, plutôt que 7.
Plus que 7 kilos.
Plus que 7.
C'est vrai aussi. Alors, Audrey.
Au moins l'année prochaine, les Oscars dureront que 30 minutes.
Ah ben oui, s'il n'y a aucun film qui sort cette année, oui. Ça c'est clair que ça va être rapide. Nathan ?
Non, monsieur, pour avoir des antidépresseurs, il faut avoir une ordonnance. Votre certificat de mariage et une photo de votre mari ne suffisent pas.
C'est vrai, ok. Florian ?
Je m'emmerde tellement en confinement que quand je reçois un appel de télémarketing, c'est moi qui ne veux plus raccrocher.
Et on en reçoit encore, hein, c'est vrai. Ouais. Olivier.
Avec le confinement, j'ai pour la première fois des problèmes d'insomnie. Souvent, ça m'arrive entre 15h et 17h. C'est super pénible.
Ah oui, non, mais il n'y a plus d'heure maintenant, on est complètement perdu. Audrey.
Du coup, les couples qui vont divorcer après le confinement, est-ce qu'on pourra dire qu'ils ont fait la crise de la quarantaine ?
Oh, joli ! Très bien. Nathan ?
Moi, je dis, on pensera ce qu'on veut de Greta Thunberg, mais il faut quand même bien avouer que depuis qu'elle a pris les choses en main pour le climat, il y a beaucoup moins d'émissions de CO2.
Oh là là. On va faire des rapprochements qui n'ont
pas. Ouais, gros rapprochement. Et ben, on termine avec Florian.
Quand on me demande quel jour on est, je fais comme cours de poste. Je dis entre le 17 mars et le 15 avril.
Ok, ah bah oui, le message est passé. Effectivement.
Ouais. Dans quelques jours, ce sera fini et on pourra sortir d'ici. Après tout ce temps, je sais plus vraiment si j'en ai vraiment. Je me rappelle pas comment faire semblant de rire.
alerte coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous.
Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail.
Et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Pharmacie, rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel. Mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Ça m'énerve. Toutes celles qui sont plus épicoles à la quête mosse. Le rouge à lèvres, c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Toutes celles qui font pas du 34 comme Marois Louz. D'ailleurs, elles ont raison. T'enfileras un jogging, t'éternueras dans ton coude. Wuhan. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit:
je peux vous aider?
J'ai plus de PQ, vous livrez. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. Elle m'énerve, elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit Helmut, rentre chez toi.
Nous sommes en guerre.
Allez, c'est déjà la fin de l'émission. Merci à nos chroniqueurs de ce soir. Merci Olivier.
Ben merci, puis à la prochaine.
Ouais, tu sais que tu es en photo hein, sur Internet en ce moment, Olivier.
Ah, oh, quand j'étais jeune, et magnifique.
Ouais, il y a une rétrospective photo du studio 5 Sens d'Angers et tu es en photo pour 2006. Non, t'avais posé il y a longtemps, hein.
Bah, j'étais mineur.
Je sais pas, mais en tout cas super sexy. C'est sur Instagram photo 5 Sens et il y a pas tes nus. C'est dommage.
Non, la photo est trop petite en fait.
Ça, bah, on voit
ça
pas. D'accord, bon, on verra, peut-être qu'il y en aura après. Merci Audrey.
De rien, je vous en prie.
Merci Florian.
Merci.
Et merci Nathan pour ce petit retour. Ça nous a fait plaisir de te réentendre dans Tonix Live.
Plaisir partagé, à très bientôt.
Donc longue vie à ta chaîne TV, on va te suivre. Allez, merci vous beaucoup. Retrouvez donc tous les Tonix Live sur Internet, sur Deezer, Spotify et tonix.so.fr. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure et même endroit. Et n'oubliez pas qu'être gay, c'est aussi gay. C'était Tonix Live. We could do this all night.
Radio G 101.5 FM.
Yes.